débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Les négociateurs de la conférence climat, la COP21, qui va se dérouler à Paris à la fin de l'année, sont réunis à Bonn, en Allemagne, en ce moment, pour une dernière séance de travail. Et la question est de savoir désormais quel accord il sera possible de signer à Paris. Car si personne ne conteste plus le réchauffement climatique, ses conséquences inquiétantes, chacun se demande si un vrai progrès est possible dans la lutte contre les gaz à effet de serre et si Paris ne sera pas, à l'instar de Copenhague il y a 6 ans, le théâtre d'une cruelle désillusion. Alors, COP21, signera-t-on un bon accord? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Pierre Canet, responsable du programme Climat et Énergie au WWF France. Il est en direct et au téléphone de Bonn, où se déroule cette réunion préparatoire. Bonsoir Pierre Canet.
Bonsoir.
Et puis Thomas Spencer est directeur, lui, du programme Climat à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales. Bonsoir Thomas Spencer.
Bonsoir.
Alors, ce qui avait pêché à Copenhague lors de la précédente conférence du même type, c'est le caractère, on va dire, non contraignant des mesures qui avaient été adoptées. Il semblerait qu'à Paris, on soit finalement dans le même cas de figure. Pas de contraintes toujours. On compte sur la bonne volonté de chacun, Thomas Spencer.
Non, parce que l'objectif est bien de négocier un traité international, donc qui doit être ratifié par les pays, et donc un traité de nature contraignante. Mmh. Toute la question, c'est de savoir quelle est l'obligation des pays vis-à-vis leurs promesses de réduction des gaz à effet de serre. Là, c'est encore un thème de discussion. Je pense qu'on va vers une solution où les pays vont être contraints à mettre en œuvre leurs promesses avec des mesures visibles, des politiques très claires, etc. Donc, pour moi, un bon compromis entre une obligation d'atteindre les réductions des gaz à effet de serre.
Mmh. Chaque État doit rendre ce qu'ils appellent en anglais « intended nationally determined contribution »,
voilà.
Une intention de contribution, ce qui signifie une espèce d'engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, aucun mécanisme de contrôle n'existe pour s'assurer que les intentions se traduisent en actes, Pierre Canet.
Oui, pour l'instant, lorsque vous parlez de contraintes, effectivement, on reste dans une approche, ce qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et c'est peut-être la différence par rapport à Copenhague, où on attendait tout d'un accord ou d'un régime qui allait transformer les choses. Cette fois-ci, à la différence de Copenhague, c'est un équilibre entre des engagements, des promesses, des plans qui sont pour la plupart détaillés. Nous sommes à une 150aine d'annonces pour le moment de pays, et un accord et un régime international qui va pouvoir tracer ses engagements et surtout les relever. Les relever, c'est-à-dire que les pays doivent se donner rendez-vous autour de périodes de 5 ans pour voir où on en est, sur quelle trajectoire ils se sont enclenchés et puis surtout comment faire pour revoir à la hausse leur copie. Eh bien, actuellement, sur la base du texte à Bonn, on voit que ces éléments au niveau mondial pêchent un peu. Il manque effectivement de la robustesse, de la solidité dans les propositions avancées par les coprésidents. Et c'est donc tout l'objet de cette journée qui vient de commencer à Bonn, de savoir comment renforcer ce texte qui doit nous amener, on l'espère, vers justement un peu plus de solidité au niveau mondial pour suivre toutes ces intentions de contribution. Car pour l'instant, dans le texte des coprésidents, on est vraiment très léger sur ce point. Et d'ailleurs, vous avez des éléments qui montrent bien qu'on est dans une approche très bottom-up, c'est-à-dire qui part du domestique pour aller vers l'international dans des circonstances qui sont déterminées nationalement.
Alors ce texte, c'est un document qui fait 20 pages, nous a-t-on dit, il a été publié, il est une base de travail, on va dire, simplifiée pour mener les négociations. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 20 pages et en quoi ce document est-il une avancée par rapport au document précédent, Thomas Spencer?
C'est une avancée importante. Puisque le document avant était trop compliqué, trop long pour permettre des vraies négociations. Donc on avait besoin de ce sujet pour commencer les vraies négociations entre les pays. Alors, c'est un texte qui prend la forme d'un traité international. Donc, un traité qui fait 10 pages, qui contient des articles différents concernant la réduction des gaz à effet de serre, le financement de la lutte contre le changement climatique, des mécanismes de contrôle, de transparence, etc.
Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'un point de négociation qui est contenu dans ce document ?
Par exemple, le point central, l'objectif mondial de réduction de gaz à effet de serre. Par exemple, l'objectif même du traité, il y a un article très clair, mais qui contient beaucoup d'options. Par exemple, la décarbonisation de l'économie mondiale durant ce siècle, une réduction de 40 à 70% des émissions mondiales à l'horizon 2050 par rapport au niveau 2010, donc plein d'options. Mais le plus important, c'est qu'on a un article très clair qui dit on va avoir un objectif mondial de réduction de gaz à effet de serre et maintenant c'est aux pays de négocier cet objectif. Donc ça en est un exemple.
Pierre Canet, ce document, ce texte tel que vous l'avez appelé tout à l'heure, c'est vraiment un outil important qui va permettre vraiment d'avancer.
Alors, deux choses l'une. D'abord, effectivement, du point de vue du processus, c'est un texte beaucoup plus simple. On voit du coup l'accord émerger. À la différence de Copenhague, on était à ce moment-là avec un texte beaucoup plus gros, difficile à voir donc où se diriger, difficile surtout à organiser les discussions. Alors maintenant, avec ce texte, on voit certaines frustrations et crispations parce qu'il n'est pas au niveau, il n'est pas l'ambition de pas mal de pays n'est pas forcément captée. Et donc, ces prochains jours, on va renforcer certains articles. Par exemple, s'agissant de la question du financement, vous avez acté dans le texte des coprésidents que les 100 milliards d'ici à 2020 représentent un plancher, un objectif qu'il faudra relever. Mmh. Mais nous n'avons pas plus d'éléments pour savoir comment relever justement ces 100 milliards, où la contrainte peut aller et exactement aussi sur le fait que les pays pour l'instant donnent pas mal d'argent, beaucoup plus sur les questions de réduction d'émissions et d'aide que sur la question d'adaptation. Et puis vous avez un point de rendez-vous qui est pris. Et là, c'est important dans l'accord que les pays donnent un calendrier bien précis avec des dates. Et les coprésidents ont avancé 2023 ou 2024 pour, en quelque sorte, faire un état des lieux général des contributions qui sont mises sur la table et de l'avancée de la mise en œuvre. Mais rien n'est détaillé. Et donc, l'objet des prochains jours, c'est de détailler, justement, de mettre en face des éléments qui correspondent à la science et à l'équité. Tout cela demande à être un peu plus précisé. Mmh. Et puis, il ne faut pas oublier, vous avez l'accord de Paris, c'est 10 pages dont on parle. Mais en plus, nous avons 10 pages proposées qui concernent l'avant 2020. Et c'est un élément qui doit être central à Paris également, voir comment les pays, sans attendre l'entrée en vigueur du nouvel accord en 2020, car l'accord de Paris, c'est une entrée en vigueur en 2020, comment préparer le terrain bien avant l'entrée en vigueur sur cette période intermédiaire dès 2016, pour faire en sorte que les pays, puisque leurs intentions de contribution ne sont pour l'instant pas au niveau de l'objectif que Thomas Spencer évoquait tout à l'heure de 2 degrés, voire 1,5 degré, eh bien, comment revoir leur copie à court terme, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur en 2018 ou 2019.
Bon, il y a plein de choses que vous dites là qui sont intéressantes, Pierre Canet. C'est vrai que cette conférence de Copenhague avait achoppé, on va dire, sur la question du financement de la lutte contre le dérèglement climatique. Vous ne pensez pas qu'on risque d'être confronté au même écueil à Paris, Thomas Spencer ?
Oui, je pense que ça fait parmi les deux sujets les plus importants, les plus difficiles de cette négociation.
On ne sait toujours pas qui va payer et comment cet argent va être prélevé.
Ça, c'est la question centrale. Ouais. Parce que Pierre a mentionné, il a raison, le niveau de financement à partir de 2020 n'est pas très clair. Mais pour moi, le point encore plus important, c'est qui ? Parce que, en effet, aujourd'hui, on a une obligation pour les pays développés d'aider les pays en développement dans la lutte contre le changement climatique avec des moyens financiers. Mais dans le groupe des pays en développement, on a des pays assez riches, notamment des pays pétroliers par exemple, ou un pays comme la Chine qui n'est pas riche au niveau revenu par tête, mais qui est un grand pays, un grand financeur des investissements dans le développement au niveau international. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on les met aussi à contribution. Et donc, c'est pour ça que c'est une question très, très, très difficile, parce qu'on a des regards opposés. Les pays développés qui disent, bah oui, d'accord, on peut mentionner un niveau d'aide à partir de 2020, mais on veut que vous soyez à la contribution aussi.
Mmh. Difficile, hein. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Pierre Canet, je reviens là-dessus, parce que on aimerait bien comprendre, mais de manière un peu précise, à quoi va servir cet argent précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, alors pour l'instant, dans le recensement des fonds qui a été fait, des financements au niveau mondial, vous avez environ 62 milliards que l'OCDE a rassemblé dans son rapport en termes d'estimation, mis sur les questions de réduction d'émissions, mais aussi d'adaptation, et on voit que l'adaptation, c'est une très faible part pour l'instant des financements, et les financements vont surtout sur, par exemple, la réduction d'émissions en termes énergétiques, dans les secteurs du bâtiment, des économies d'énergie. Et il va falloir faire maintenant davantage pour également renforcer la résilience dans les pays, notamment les plus vulnérables, qui sont déjà touchés par le dérèglement climatique.
Ça, c'est les actions pour lutter contre. Hein, c'est ça, c'est les actions pour lutter contre les impacts du réchauffement dont vous nous parlez
là. Exactement, et même des infrastructures. Vous avez par exemple dans le secteur des mangroves ou dans le secteur des écosystèmes qu'il s'agit de protéger dans certaines régions très riches en écosystèmes, la possibilité également de mettre des financements avec des co-bénéfices sur les questions de réduction d'émissions, avec des puits de carbone conséquents, et puis le rôle que la mangrove peut jouer dans des questions de régulation et de la question de l'eau, des inondations. Vous avez également beaucoup de zones côtières qui vont être touchées par la montée des eaux, et en termes de catastrophes naturelles, donc une résilience qui doit être accrue dans ces zones côtières. Je pense à l'Afrique, avec notamment en Afrique de l'Ouest, vous avez des villes qui vont se développer en zone côtière, et donc il est essentiel de pouvoir renforcer ces infrastructures pour qu'elles puissent tenir en tant que qu'infrastructure durable. Voilà, c'est une question clé, l'adaptation, qui n'est pas précisée dans le texte. Les pays sont invités en quelque sorte à renforcer la part de l'adaptation dans leur financement, mais il n'y a pas d'obligation de répartition décidée.
Et puis là, le deuxième point, c'est ce que Thomas Spencer a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'atténuation, ces politiques qui sont destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'ampleur, finalement, des investissements nécessaires pour rester en deçà de cette augmentation de température cruciale, ces 2%, finalement, il va en falloir beaucoup plus que 100 milliards par an pour en arriver là, non, Thomas Spencer?
Tout à fait. Et je pense que c'est... On a besoin de ce recadrement du débat que vous venez de faire, en effet. Ce n'est pas une question de 100 milliards. On a besoin des 100 milliards pour être solidaire avec des pays qui sont très touchés par le changement climatique et n'ont pas le moyen de lutter contre le changement climatique, comme Pierre l'a rappelé. Mais en effet, il s'agit plus de réorienter tous les investissements dans l'économie. Et pour cela, on a besoin des bonnes politiques, des incitations, des subventions, etc. La suppression des subventions aux énergies fossiles. Donc il s'agit des mesures, disons, structurelles qui visent à changer toutes les incitations dans l'économie. Et là, 100 milliards, c'est une goutte d'eau. En fait, ce dont on a besoin, c'est 1000 milliards par an de réallocation de capital. Donc on a bien deux questions différentes, de nature différente. On a la question de la solidarité internationale, c'est une question de 100 milliards par exemple, et on a la question de la transformation de nos économies, de nos systèmes financiers pour permettre cette redirection, cette réorientation du capital.
Au-delà des promesses d'efforts financiers supplémentaires, je m'adresse à vous, Pierre Canet, qui êtes sur place. On dit que ce sont la qualité des échanges qui a changé, une volonté commune plus forte. C'est quelque chose dont vous pouvez témoigner?
La qualité d'échange, on la sent plutôt à l'extérieur des négociations, dans la construction d'un mouvement qui va de plus en plus solide, qui touche l'ensemble de la société civile, avec, puisque c'était la question posée de la différence avec il y a 6 ans, je pense beaucoup d'expressions de la part des groupes religieux, des syndicats, des organisations non gouvernementales, même des entreprises, hein, pour certaines, qui vraiment sont mobilisées, de la finance, avec des déclarations très importantes du président de la Banque d'Angleterre. Donc vous avez des signaux principaux et majeurs dans la mobilisation vers la COP21, mais qui pour l'instant ne se reflètent pas forcément dans le texte ou dans l'accord, qui ne correspond pas complètement à la vision qu'on attend d'un accord solide et robuste. Alors maintenant, effectivement, dans le processus, il y a un bon tempo, on va dire. C'est-à-dire que le travail de la future présidence, c'est-à-dire la France, avec le Pérou, avec le système des Nations Unies, et puis des temps de rendez-vous qui alternent la négociation plus technique avec des temps ministériels qui sont, eux, plus politiques sur des sujets bien précis, cet échange, effectivement, s'est amélioré. Et cette année, on a vu, avec la mobilisation du secrétaire général également avec des temps forts, on a vu un peu plus de qualité dans le débat. Maintenant, il faut vraiment que tout cela soit capté par l'accord et dans les discussions à Bonn cette semaine.
Vous semblez d'accord, Thomas Spencer ?
Oui, c'est ça le défi qui nous reste, en fait. Moi, je vois un consensus politique et conceptuel sur la nature de l'accord dont on a besoin. Bien sûr, il y a encore des divergences de fond, évidemment. Mais le vrai défi qui nous reste, c'est dans le temps qui reste, quelques semaines de négociations, de traduire ce consensus, cette vision commune dans un texte juridique. Et il nous reste très peu de temps pour faire ça.
Mais est-ce qu'on commence à avoir une photographie un peu nette de ce qui va se passer à Paris en décembre, aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'on a déjà... Je dirais 75% des éléments nécessaires. D'abord, les briques de l'accord, les contributions nationales, on les a. 150 pays qui couvrent environ 90% des émissions mondiales et de l'activité économique mondiale, finalement. Donc, on sait exactement... ce vers quoi ça nous amène, c'est pas suffisant, mais c'est une bonne base. On voit que ça implique une accélération assez forte des efforts contre le changement climatique, notamment dans les grandes économies. Donc, ça, c'est 50%, disons, de l'effort de négociation qui a déjà été fait. Ensuite, on a avancé sur le fond. Donc, moi, je vois peut-être 3 à 4 grands points à régler d'ici Paris, plutôt de nature politique, et Pierre a raison, il faut augmenter le niveau de l'ambition de l'ensemble en réglant ces points ensemble, mais on a fait un bon bout du chemin.
Et les gros pollueurs alors, États-Unis, Chine, est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire qu'on va pouvoir compter sur eux, Pierre Canet ?
Alors, on a eu des annonces encourageantes à domicile, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les annonces bilatérales entre la Chine et les États-Unis, ces pays ont commencé. Il y a des balbutiements chez eux très intéressants qui se traduisent par de nouvelles régulations dans le secteur du charbon en Chine, dans le ciment, la métallurgie, avec des objectifs chiffrés et des plans, des moyens pour y arriver. C'est le cas par exemple dans la régulation en termes d'émissions du charbon et en termes de renouvelables aux États-Unis. C'est le cas avec le marché de carbone en 2017 en Chine et le plafonnement dans certains secteurs. Maintenant, il faut que ces grands émetteurs soient d'accord de créer un système, un régime au niveau mondial qui mette l'ensemble des nations autour de la table. Et c'est bien l'idée d'avoir l'ensemble des nations et d'y intégrer donc une question de la différenciation qui pour l'instant a été complètement lissée dans le texte des coprésidents. C'est-à-dire que vous avez des niveaux de responsabilité différents. Vous avez également des capacités différentes. Et cela doit être renforcé dans le texte parce qu'on a l'impression de voir l'ensemble des pays mis au même niveau. Et donc le fait d'avoir des grands émetteurs qui se mobilisent donne l'impression que finalement le monde suivra ce mouvement. Non, c'est aussi à ces émetteurs de se mettre autour de la table. Et puis on voit par exemple ce qui peut être fait par ces grands émetteurs, une certaine symétrie entre ce que la Chine a pu mettre sur la table en termes de financement, 3,1 milliards, et en face les États-Unis qui avaient annoncé un peu moins pour le fonds vert et qui n'ont pas encore réussi à mobiliser cet argent.
D'accord.
Donc vous avez une mobilisation. Maintenant, il faut que ces acteurs mettent l'ensemble des nations et acceptent que l'ensemble des nations soit autour de la table.
Alors,
pour l'accord de Paris.
Un processus à long terme, on le comprend bien. Les négociations vont se poursuivre après Paris. Quelle sera l'échéance suivante, Thomas Spencer ?
Pierre a très bien dit, il faut un processus de travail, un programme de travail qui permette de mettre en œuvre l'accord de Paris avant sa rentrée en vigueur.
Oui.
Ce qui permettra ensuite d'augmenter le niveau d'ambition des actions des pays avant 2020. Donc, pour atteindre les objectifs de 2030, il faut commencer dès 2016.
Bon, alors rendez-vous à Paris en décembre pour voir un petit peu comment cette affaire-là se profile. On va pas pouvoir en dire plus ce soir. On va observer ce qui se passe à Bonn, où vous êtes, Pierre Canet. Merci d'avoir participé à cet entretien. Responsable du programme Climat-Énergie au WWF France. Et puis Thomas Spencer, qui est directeur du programme Climat à l'IDRI. Bon voyage à vous, puisque vous partez demain pour Bonn participer à cette conférence préparatoire. Merci également à Florence Ponce, Alexandre Serre, qui ont préparé cette émission, et Steve Cause, qui l'a réalisé. Demain, Mardi Politique reçoit Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport. Mercredi, on s'intéresse aux élections présidentielles en Argentine. Merci à tous de votre fidélité.